Bonjour à tous. Au fond, la France, on l'aime bien. Pas seulement pour ses fromages et ses vins, aussi pour ses chansons. En France, on mange trop, mais on n'oublie pas l'essentiel, l'amour. L'information, c'est bien, mais trop d'infos tue l'info. De toute façon, dans la vie, il ne faut pas s'en faire, car tout se termine souvent par des fleurs. Quelquefois, il suffit d'écrire une lettre, et puis les vacances rythment nos années. À propos, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Au programme de cette émission, Patrick Topalov qui a trop mangé, Diane Dufresne qui a rencontré l'homme de sa vie, Stéphane Escher qui voudrait bien déjeuner en paix, la destinée de Guy Marchand. Nous entendrons aussi Claude François dans un entretien. Michel Polnareff nous a écrit une lettre et Muriel Moreno n'arrive pas à rentrer de vacances. Le comportement alimentaire des Français continue de se dégrader. Ils mangent trop de sel, trop peu de fibres. Ce ne sont pas les seuls au monde, mais enfin, la plupart des revues médicales le disent, la répartition des aliments laisse à désirer. Trop gras, trop salé et pas assez fibreux. Les Français ont encore des progrès à faire en matière d'équilibre alimentaire et d'activité physique. Deux populations se distinguent particulièrement sur le plan des inégalités alimentaires. Un niveau d'études élevé favorise des comportements plus sains. Les Français, passés par l'enseignement supérieur, ingèrent plus de fruits et légumes. Mais surtout, ils boivent deux fois moins de boissons rafraîchissantes, alcool exclu. Ces messieurs mangent en plus grande quantité, mais ils se tournent aussi plus vers des éléments peu recommandés. Fromage, produits carnés crus ou encore pommes de terre occupent une place de choix dans leur assiette. Les femmes, elles, privilégient yaourts, compotes, volailles et soupes. Les Français, et pas seulement les Français, mangent trop vite, fait savoir le docteur Michel Siemes. Les conséquences de cette fâcheuse routine. Quand on mange trop vite, on ne prend pas le temps de mastiquer. Or, la mastication, c'est la première étape de la digestion. On dit qu'un repas doit durer au minimum 20 minutes pour que le cerveau prenne conscience qu'on a mangé et qu'on arrive à satiéter. Autrement dit, qu'on peut arrêter de manger. Manger trop rapidement n'est donc pas bon pour l'organisme, mais surtout ne permet pas au cerveau de digérer l'information du repas. Si on mange en 10 minutes, vous allez continuer à manger parce que votre cerveau n'a pas eu le temps de comprendre que vous avez suffisamment mangé et il va en redemander. Dans les années 70, c'était le début des grandes surfaces. Les Français et Françaises étaient incités à bien manger en grande quantité. Une chanson reflète bien cet état d'esprit. « J'ai bien mangé, j'ai bien bu », chantée par Patrick Topalov en 1971.
J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus.
Y'a mon cousin Gaston qui m'arrose de bonbons et ma tante Amélie qui me fait la folie. Ma maman est en haut qui me fait des gâteaux. Mon papa est en bas pour me faire deux œufs sur le plein.
J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus.
Je ne fais que manger. J'ai beau crier ma mine, j'ai toujours mauvaise mine. Y'a mon grand frère Henri qui me garde bouillie et ma petite sœur Thérèse qui rit quand elle me caille des fraises.
J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre super tendue. Merci petit Jésus.
Vous ne le savez pas forcément, mais les paroles et musiques de la chanson sont de Claude François et Jean-Pierre Bourterre. Ce titre est l'adaptation d'une vieille comptine populaire originaire du sud de la France. À l'époque, Patrick Topalov fait partie de l'écurie des disques Flèches de Claude François. Au début des années 70, Patrick Topalov assure même les premières parties des tournées de Claude François. Les chœurs de cette chanson sont assurés par Claude François et les Fléchettes, les choristes de Clo-Clo. Les Fléchettes sont les quatre. Dominique Poulain, elle a aussi chanté les génériques de L'île aux enfants, Le village dans les nuages ou encore Au pays de Candy. Catherine Welch, Martine Latorre et Francine Chantreau. Ces deux dernières seront plus tard les choristes de Dorothée. À sa sortie, ce disque se vend à plus de 300 000 exemplaires, devenant disque d'or. Ce 45 tours sera sujet à fâcherie entre Carlos et Claude François. Le premier voulait enregistrer ce titre. Patrick Topalov est né le 30 décembre 1944 dans le 15e arrondissement de Paris. Avant d'effectuer son service militaire en 1965, il est tour à tour marin sur un bateau de pêche, concierge et manutentionnaire. À la rentrée 1966, Patrick Topalov remporte un concours pour être animateur sur RMC. Il est sélectionné avec un autre débutant, Jean-Pierre Foucault. En 1967, il entre à Europe 1. C'est en 1970 qu'il rencontre Claude François. En 1978, il sort un tube avec Sim, Où est ma chemise grise, 500 000 disques vendus avec une libre adaptation française du succès de John Travolta et Olivia Newton-John. Patrick Topalov meurt le 7 mars 2010 des suites d'une crise cardiaque alors qu'il sort de table après un déjeuner dans un restaurant de Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Jean-Pierre Bourterre est un compositeur français né le 31 janvier 1942 à Paris 15e et mort le 4 mars 2024 à Chatou. Il travaille pour de nombreuses vedettes de la chanson, de Jacques Dutronc à Michel Sardou et surtout Claude François dont il sera le directeur artistique et principal collaborateur tout au long des années 1970, composant notamment pour lui Le téléphone pleure, Magnolia Forever et Alexandrie. Alexandra.
Les chansons nous racontent.
Comment les couples se rencontrent ? Les rencontres amoureuses, qui ont évolué bien au-delà des schémas traditionnels, se redéfinissent à l'aune des avancées technologiques, des transformations sociales et des valeurs émergentes des nouvelles générations. La manière dont les couples se rencontrent n'a jamais été aussi variée et influencée par la technologie, alors que les relations amoureuses ont longtemps été le fruit de rencontres fortuites, de présentations par des amis ou de moments partagés lors d'événements sociaux. La donne a radicalement changé au cours des dernières décennies. La digitalisation croissante de nos vies, combinée à l'émergence de nouvelles priorités générationnelles, semble avoir redéfini le concept même de la rencontre amoureuse. Nous voilà désormais dans une ère où la compatibilité se cherche en ligne et où la quête d'une connexion émotionnelle repose sur des critères plus profonds que le simple coup de foudre. Il y a toujours bien sûr la famille, les études, les amis, les restaurants, le travail où l'on peut rencontrer, mais aujourd'hui 53% des couples se rencontrent désormais via des applications de rencontres. Diane Dufresne, elle, ne se pose pas la question, elle l'a rencontré, l'homme de sa vie.
Attendait le même feu vert. Lui faire dans la vie.
Je vais m'en passer.
Prends-tu de l'eau dans ton whisky?
Non, je le prends straight.
Rencontrer l'homme de ma vie est une chanson québécoise interprétée par Diane Dufresne, écrite par Luc Plamondon et composée par François Cousineau en 1972. Elle figure sur l'album Tiens-toi et ben, j'arrive en canadien et représente, ou en tout cas en québécois, et représente le premier grand succès de la chanteuse. La voix masculine de la chanson est celle de François Cousineau. Dans la reprise pour l'album Les grands succès, c'est Robert Charlebois qui prête sa voix. La chanson a été reprise par Fabienne Thibault, puis par Marie-Pierre Arthur pour l'album Intemporel. Diane Dufresne, née le 30 septembre 1944 à Montréal, Québec, Canada, est une chanteuse, comédienne et peintre québécoise. Connue pour ses costumes excentriques, elle est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses québécoises. Diane Dufresne doit abandonner l'école à 15 ans à la suite du décès de sa mère. Puis, à 18 ans, juste avant de s'envoler pour la France, Diane Dufresne interprète sur une scène à Montréal des textes d'Aragon, Ferré et Brel. En 1962, elle part à Paris étudier le chant chez Jean Lumière et l'art dramatique chez Françoise Rosée, et entre 1966 et 1968, elle est engagée dans les cabarets de la rive gauche où elle chante Vigneault, Ferland, L'Éveillé et chante également dans des revues, des musiques de films et pour la radio. Elle fait même des jingles. En 1969, elle chante Un jour il viendra, mon amour, la chanson thème du film de Denis Héroux, L'Initiation, avec Chantal Renaud et Daniel Quimet. Sa carrière démarre vraiment à l'automne 1972 avec la sortie de son premier album Tiens-toi et ben, j'arrive, dont on vient de parler, et dont nous venons d'entendre un extrait, avec « J'ai rencontré l'homme de ma vie ». En 1973, à la Place des Arts de Montréal, c'est la consécration et les autres pays francophones ne tarderont pas à être également séduits par cette chanteuse. Le parolier Luc Plamondon écrit les paroles de ses premières chansons marquantes, lesquelles sont mises en musique par le compositeur François Cousineau, qui a été le compagnon de Diane Dufresne dans les années 70, et lui donne d'ailleurs la réplique dans la chanson « J'ai rencontré l'homme de ma vie » en 72, que nous avons entendu. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mets-tu de l'eau dans ton whisky ?»
Les chansons nous racontent avec Philippe.
En ce moment, le trop-plein d'informations est évident. La guerre à Gaza, la guerre en Ukraine, les déboires des premiers ministres successifs français. Les Français sont pourtant très intéressés par l'information. Ils font un lien entre le fond et la forme de l'information, considérant l'actualité et les nouvelles comme essentielles pour mieux comprendre et vivre leur quotidien. Cependant, ils expriment des doutes sur l'indépendance de la presse et la liberté des journalistes, ce qui témoigne d'une méfiance envers le contexte des émissions d'information. La multiplication des sources d'information, couplée à la rapidité des flux numériques, entraîne une saturation mentale pour de nombreux Français. Près de 54% des Français se déclarent fatigués de l'information, dont 39% apparaissent même très fatigués. Ces chiffres, bien que relativement stables par rapport à la première vague de cette même étude publiée en 2022, traduisent une tendance durable. Paradoxalement, cette surcharge ne conduit pas à un rejet de l'information, mais à une consommation plus sélective. Ainsi, les Français continuent d'accorder une grande importance aux informations pertinentes et de qualité. On peut distinguer plusieurs catégories. Les submergés, ils sont 25%, ces Français ressentent une surcharge émotionnelle et cognitive face à l'afflux constant d'informations. Ils peinent à trier les contenus et expriment un sentiment de stress régulier. Les boulimiques, 18%, toujours à l'affût de nouvelles informations, ce profil consomme intensément des contenus sur plusieurs plateformes. Leur soif de connaissance est contrebalancée par une difficulté à déconnecter. Les défiants, 20%, dotés d'un regard critique, ils questionnent systématiquement la fiabilité des sources et s'appuient sur plusieurs canaux pour confronter les points de vue. Leur exigence vis-à-vis des médias est très forte. Les traditionnels, 22%, attachés à des médias de référence, ils privilégient les formats classiques comme la presse écrite ou les journaux télévisés. Leur relation à l'information repose sur la confiance et la longévité des médias choisis. Les détachés, 15%, ces individus adoptent une posture d'éloignement volontaire face à l'actualité. Souvent désabusés, ils limitent leur exposition au contenu médiatique pour préserver leur bien-être. Stéphane Escher, lui, se situe dans le camp des submergés et désire déjeuner en paix.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Le déjeuner en paix. Du matin, les nouvelles sont mon reste, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. En déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. En paix, en paix.
Déjeuner en paix est une chanson écrite par Philippe Djane et composée et interprétée par Stéphane Escher, parue sur l'album Engelberg en 1991, puis en single la même année. Le solo de la chanson est interprété à la guitare par François Delquet. Cette chanson est sortie pendant la guerre du Golfe, 1990-1991. Philippe Djane avait soumis ce texte à Stéphane Escher, qui eut l'idée de l'habiller d'une mélodie issue d'un sample erratique au synthétiseur. Peu habitué au succès que rencontra ce titre auprès du public, Escher admettra qu'il en perdit pour un temps le sens des réalités. Déjeuner en paix entre dans le top 50 le 24 août 1991 à la 32e place, puis commence à progresser au fil des semaines suivantes, avant d'atteindre la seconde place du top durant la 7e semaine, avant de chuter d'une place la semaine suivante, mais parvient à remonter à la seconde place du top 50, gardant cette position durant 4 semaines, de la 9e à la 12e semaine. Il quitte le classement après sa 22e semaine et une 41e place. L'album s'est vendu à 240 000 exemplaires. Parmi les chanteurs-comédiens que nous évoquons régulièrement dans cette émission, Guy Marchand tient une place à part. Guy Marchand n'était pas seulement chanteur, il était aussi pianiste, saxophoniste et clarinettiste. Il joue également du jazz, du blues et du tango. Guy Marchand, né le 22 mai 1937 dans le 20e arrondissement de Paris et mort le 15 décembre 2023 à Cavaillon, est un acteur, chanteur, musicien, auteur et écrivain français. Au cinéma, il a notamment tourné pour Robert Enrico, François Truffaut, Jean-Charles Taquella, Claude Pinoteau, Philippe de Broca, Maurice Pialat, Claude Miller, Bertrand Tavernier, Diane Curis, Gérard Lozier, Alexandre Arcadi, etc. Costa Gavras, Pierre Granier de Fer, Alain Corneau, Jean-Marie Poiret, Édouard Molinaro, Christophe Honoré ou encore le réalisateur britannique Guy Hamilton. En 1982, la chanson Destinée, qu'il a coécrite et interprétée, est popularisée grâce au film de Claude Zidi, Les Soudoués en vacances, dans lequel il joue la star Paul Memphis.
Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée. Tu ne pourras pas y échapper, c'est gravé. L'avenir, malgré nous, doit toujours devenir tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Destiné, depuis longtemps j'avais deviné qu'à toi l'amour allait m'enchaîner. Quand je rencontrerai quelque part ton regard, destiné, où es-tu toi qui m'es destiné? Si jamais vous vous reconnaissez, je voudrais vous entendre crier, m'appeler. L'avenir, malgré nous, doit toujours devenir tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. déchiré. Je suis un clown démaquillé. Le grand rideau vient de se baisser sur l'été destiné. On était tous les deux destinés.
La même année, en 1982, Guy Marchand, il tient le rôle d'un journaliste dans le film Nestor Burma, détective de choc de Jean-Luc Miesch aux côtés de Michel Serrault, avant d'incarner lui-même le célèbre détective privé de Léo Mallet dans la série télévisée diffusée sur France 2 entre 1991 et 2001. Par ailleurs, il a interprété pour TF1 l'inspecteur Mathieu dans Opération Trafic en 1980-1981 et le rôle principal dans la série Fargaz de 2003 à 2007. Il a également joué dans deux épisodes de 10% et est apparu entre autres dans Les 5 dernières minutes, Nos chers voisins et Scènes de ménage. Je vous propose maintenant d'ouvrir les archives de l'émission. Les chanteurs, on les entend chanter, mais on aime bien aussi découvrir leurs petits secrets. Nous avons écouté déjà Joe Dassin, voici Claude François dans l'émission Les chansons à la carte, le 20 janvier 1978.
Ça va pas mal, puisque c'est la première fois qu'on se voit en 1978. Permettez-moi de vous présenter au nom de toute l'équipe de chansons à la carte nos meilleurs voeux.
Mais ça me touche beaucoup, je vous présente les miens aussi. Je souhaite des tas de bonnes choses à tout le monde.
Et en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous souhaitez, Claude?
Oh, je souhaite continuer cette année encore et de nombreuses années encore à chanter. Je veux dire, c'est la seule chose qui m'amuse et qui me passionne.
C'est aussi ce qu'on souhaite. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ces trois titres que vous allez nous interpréter. Il y a d'abord Magnolia Forever. Il y a aussi Alexandrie Alexandra.
Oui.
Et puis il y a Je t'aime tellement. Magnolia Forever, est-ce que ça veut dire qu'il y a un petit retour à la nature? Vous aimez les fleurs?
Oh, la magnolia, c'est un symbole d'un souvenir ancien. Enfin, je veux dire, je suis bien mal placé pour pouvoir expliquer ce texte, dans la mesure où c'est Étienne Rodagide qui a écrit ça, et c'est un auteur très spécial, qui en général n'écrit des textes que très, très ésotériques, des textes très compliqués. En général, il les écrit pour Julien Clerc, qui est un personnage aussi compliqué que lui. Et là, pour une fois, il s'est adapté à moi, avec son état d'esprit, et je crois avoir compris à travers son texte que magnolia est un symbole du temps passé, puisque c'est une fleur démodée, disons qu'un magnolia, ça faisait partie des années 1930 ou autre. Et pour lui, c'est donc un souvenir passé, un souvenir que la personne pour laquelle je chante a complètement oublié, un souvenir complètement effacé, alors que pour moi, c'est un souvenir très ardent encore.
Je croyais que ça avait un rapport avec la nature, avec les fleurs, puisqu'il s'agit de fleurs. Parce que je me suis laissé dire que vous étiez très, très attaché, de plus en plus peut-être, à la nature. Vous aimiez être entouré d'animaux, de plantes vertes, de fleurs.
C'est-à-dire que je suis venu de la nature. Je suis venu d'Égypte, d'un pays où la nature nous entoure. Où...
C'est incroyable.
Mais Claudette parle pendant que je passe. Si vous connaissez par cœur ce que je raconte, laissez les autres écouter.
Ça m'étonnerait parce que, comme la fois dernière, on n'a pas répété.
Et donc, la nature pour moi est quelque chose d'important parce que, dans la mesure où la nature est l'élémentarière d'un être humain, je veux dire, sont les premiers réflexes d'un être, disons que tout se situe au hasard de la prime enfance, du départ. La nature reste quelque chose d'important, et j'avoue que dans les grandes villes comme Paris, par exemple, on est complètement éloigné de la nature, on l'oublie, on n'y pense pas. Alors j'ai de la nature chez moi, partout. J'ai aussi bien des animaux que des plantes vertes, que n'importe quoi, du moment que je me rapproche de la nature.
Et Alexandrie, Alexandra, c'est un rapport avec le pays d'où vous venez, puisque ça se trouve en Égypte.
C'est un port égyptien, c'est le port le plus important
en Égypte. Et le troisième titre, Je t'aime tellement, c'est une chanson d'amour.
Ça sera le deuxième dans l'ordre, et c'est une chanson d'amour également. Alors là, c'est très classique, c'est un rapport avec tout et avec rien, juste avec une histoire d'amour, le fait.
Je crois que vous allez commencer par le titre disco.
Alexandrie, oui. C'est-à-dire que le premier et le troisième seront deux titres disco, le disco étant donc une mode, c'est-à-dire un système rythmique très précis. Même si je l'expliquais, personne ne comprendrait, c'est compliqué, oui.
Ce serait trop long.
Mais c'est un système type qui donne des pas de danse très précis. Moi, dès qu'il y a un mouvement de danse extraordinaire, j'y vais parce que j'adore ça, puisque je ressens ça.
On est impatient de vous retrouver avec ces trois titres.
D'accord.
À tout de suite, Claude.
Merci.
Magnolia Forever, Magnolia pour toujours en français, est une chanson française disco de Claude François, single extrait de son dernier album, Magnolia Forever de 1977, un des nombreux tubes intemporels de sa carrière et de la chanson française vendue à plus de 600 000 exemplaires.
Yeah, yeah. sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ses musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Non, je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle est si fière, elle est soumise. Comme un amour qui lâche prise, qui casse et ne plie pas. Tu lui ressembles quand elle tremble. Et dans ta voix, j'entends parfois savoir, et elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure, là dans le cœur des arbres en
Pierre Bourterre et Claude François composent cette chanson avec des paroles de son nouveau parolier Étienne Rodagil sur le thème d'une ancienne histoire d'amour de Claude François avec qui il ne sait plus comment faire mais qu'il n'oublie pas et dont il associe le souvenir pour toujours à des Magnolia. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Étienne Rodagil a quant à lui déclaré que les paroles de la chanson avaient été inspirées par une rencontre entre Georges Gershwin et Maurice Ravel, prétendument sous un magnolia. La légende raconte que Ravel aurait demandé à Gershwin « Apprenez-moi la musique populaire », à quoi Gershwin aurait répliqué « Apprenez-moi la musique ». Cette chanson marque l'évolution des débuts de carrière yéyé des années 1960 de Claude François vers la nouvelle vague disco de l'époque, avec entre autres Je vais à Rio, sorti quelques mois plus tôt, en mai 77. Son tube international, comme d'habitude, de 1967, évoque déjà ses souvenirs de sa relation passée avec France Gall, avec qui il a été en couple entre 64 et 67. Son nouveau parolier, Étienne Rodagil, lui écrit également Alexandrie, Alexandra, de 1977, son ultime tube avant sa disparition accidentelle en 1978. Voici maintenant notre rubrique reprise de chansons. Aujourd'hui, le port d'Amsterdam. Amsterdam est une chanson écrite, composée et interprétée en 1964 par Jacques Brel. Il n'existerait pas de version enregistrée en studio de la chanson créée par Jacques Brel à l'Olympia de Paris. Amsterdam paraît la même année sur l'album enregistré en public Olympia 1964.
Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nattes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Et voici la reprise chantée par Denèse Prigent.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui déhantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes.
l'océan. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leur grosse main invite à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en grottant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon grand. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Denèse Prigent, aussi appelée Denèse, née le 17 février 1966 à Santec dans le Finistère, est un auteur, compositeur, interprète français de chants en langue bretonne. Ses genres de prédilection sont le canne à discant, chant et contre-chant à danser, et surtout la guerze, chant dramatique racontant un fait historique ou un conte emprunté à la mythologie bretonne ou celtique. Lettre à France est une chanson de Michel Panareff sortie comme single en 1977. Elle est présente sur la réédition CD de l'album Coucou me revoilou, mais aussi sur la compilation et les albums live, Live at the Roxy en 1996 et Zérétour 2007. Paul Naref, alors en exil aux États-Unis, y exprime sa nostalgie pour la France.
Thank you. je vis dans une boîte de musique électrique et fantastique. Je vis en chimérique. La différence, c'est ce silence parfois au fond de moi. Tu n'es pas toujours la plus belle, que je te reste infidèle, mais qui peut dire l'avenir de nos souvenirs. Oui, j'ai le mal de toi parfois, même si je ne le dis pas, l'amour s'est fait de ça.
En 1972, Michel Polnareff est au fait de sa gloire et mène une vie luxueuse dans un hôtel particulier à Neuilly. Vivant une vie de star, il engage un homme de confiance pour gérer ses finances. Mais cette année-là, il connaît un premier revers causé par l'affiche de son concert à l'Olympia où il montre ses fesses. Accusé d'attentat à la pudeur, il doit affronter un procès et s'acquitter d'une amende de 6 millions d'anciens francs. Compte tenu de l'inflation, c'est une somme modique pour le chanteur à l'époque, mais il trouvera la sanction sévère et injuste. Polnareff reçoit une lettre d'une agence immobilière, à la suite de cette amende, qui lui réclame 6 mois de loyer impayé et apprend par la suite que ses biens, sa Rolls-Royce et sa maison, ne lui appartiennent pas, mais sont en location. Il a été trahi par son homme de confiance, qui l'a spolié en lui prenant son argent et en laissant le chanteur endetté. De plus, le fisc lui réclame plus d'un million de francs, mais Polnareff est ruiné. L'opinion publique, refusant de croire en sa bonne foi et lui supportant mal ce désamour, Polnareff décide de quitter la France alors qu'il est menacé d'emprisonnement pour refaire sa vie ailleurs. Il s'exile alors en Californie, où il publie un single qui se classe rapidement au Billboard Hot 100 hit parade américain. Mais la France lui manque, un an et demi après son départ forcé. Ne pouvant regagner le pays sans se faire arrêter, il est aidé par Roger Créchet, ancien directeur des programmes de RTL, qui lui propose d'organiser un concert en Belgique vu par 4000 francs qui fait sensation malgré un matériel de sonorisation qui ne viendra jamais. De retour à New York, la nostalgie le guette et lors d'une sortie dans un restaurant de la 5e avenue, tout lui rappelle la France. Pris d'un coup de blues, Polnareff griffonne sur une nappe en papier les premières notes de la chanson qui ne se nomme pas encore Lettre à France. Il enregistre la musique sur cassette et l'envoie à son parolier Jean-Loup Dabadie. Dabadie écrit alors un texte avec deux niveaux de lecture. On peut soit y voir une simple lettre d'amour d'un homme loin de sa dulcinée, ou alors celle d'un homme exilé qui rêve de revoir son pays, la France. Ce double sens des paroles séduit Polnareff. L'amour à la plage est une chanson du groupe français Niagara. Initialement sortie en single en mai 1986, elle apparaît sur leur premier album Encore un dernier baiser, paru en automne de la même année. La chanson est écrite et composée par Muriel Moreno, tout comme Les Amants, chanson de la face B du single. Le refrain est dérivé d'un air du Don Quichotte de Jules Massenet, acte 5, la mort de Don Quichotte. Et que ton cœur si doux plane dans les clartés, et que ton cœur si doux, c'est l'amour à la plage, suivi de plane dans les clartés et mes yeux dans tes yeux. La chanson est l'un des tubes de l'été 1986, et devient le plus grand succès commercial du groupe. Son clip vidéo à base de pellicule Super 8 permet au groupe de se démarquer par son originalité. Voilà, cette émission est maintenant terminée. À bientôt pour d'autres chansons qui nous racontent.